m'appelle Robert. J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de choisir Radio Capi pour vous informer, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau dans ce programme que vous propose la fréquence de la paix. Lors du débat général autour de la proposition de loi électorale, quelques amendements ont été formulés par certains députés. Le député Matadi Wamba, notamment, l'élu de Kenge, a soulevé plusieurs inquiétudes, à savoir l'opportunité des modifications de la loi électorale à chaque cycle électoral. L'ancien bâtonnier de la République pense que la question de la représentation de la femme ne doit pas être comprise comme une faveur, telle que dispose l'article 14 de la Constitution. S'agissant de la suppléance familiale, l'élu de Kenge évoque le risque de tomber dans la discrimination. Bref, le représentant de la population de Kenge exhorte les députés de modifier la loi en tenant compte des limites constitutionnelles. Alors comment réagissez-vous face à ces inquiétudes et que proposez-vous pour une loi électorale stable et opposable à tous les cycles électoraux ? Alain Goy et Jean-Marc Matouaki concourent à la production et la réalisation de ces programmes. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous en parlons donc dans cette émission, comme vous l'avez déjà su, lorsque nous avons posté ces sujets, qui vous a en tout cas intéressé, que nous recevons le professeur Tshibangu Kalala, un des constitutionnalistes de ce pays. Alors, professeur, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Jérôme Kumbo, merci.
Alors, il faut encore heureux de vous retrouver, et toujours dans les cadres de la réflexion, pour au fait permettre à ce que la nation puisse se faire une idée très claire sur les processus électoraux.
Le plaisir est partagé.
Voilà, d'entrée des jeux, pourquoi une loi chaque fois révisitée au début du cycle électoral ? Est-ce une opportunité ? Est-ce que c'est important de révisiter la loi à tout moment ?
Merci beaucoup, Gérard Lungembo. D'abord, je remercie la direction de Radio Capi et vous-même pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer sur ce sujet. Et je salue mes amis au Capi. Que je n'ai pas rencontré,
ça c'est déjà surtout les auditeurs.
Eh bien, c'est un sujet intéressant. J'ai suivi ce débat. Moi-même, quand j'étais parlementaire, j'étais impliqué dans ce type de débat. Gérard Lungembo, et pour les auditeurs de Radio Capi, nous avons une très bonne loi électorale. La loi actuelle, elle est bonne. C'est même un modèle que certains pays africains peuvent même copier. Donc notre problème, ce n'est pas le problème de la loi. Le problème, c'est l'application de la loi. Ceux qui sont chargés d'appliquer la loi ne respectent pas la loi électorale, violent la loi électorale de manière délibérée pour conserver le pouvoir dans le pays. C'est ce qui est arrivé en 2018, aux dernières élections générales, sous le régime sortant, le régime du PPRD allié. Et donc le problème est là. Il ne faut pas qu'à chaque cycle électoral qu'on vienne révisiter la loi électorale. Ce n'est pas bon. Il faut que nous ayons une loi stable qu'on ne peut modifier que s'il y a véritablement qu'il y a des problèmes. Mais on ne peut pas, et je partage le point de vue du bâtonnier Matadi Wamba, il ne faut pas changer la loi à tout moment. Mais le problème, Jelungebo, ça c'est un principe général, c'est parce qu'on viole la loi qu'il faut finalement améliorer la loi. Donc les violations de la loi...
Mais nous sommes là en démocratie, parce que la démocratie, si elle existe réellement, c'est conquérir les pouvoirs et les conserver le plus longtemps possible.
Oui, justement.
Comme on aime bien le dire.
Mais de manière honnête et correcte. Et donc, la loi a été violée. Puisqu'elle a été violée, on doit voir comment les tricheurs, qu'est-ce que les tricheurs ont fait ? Les fraudeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et en ce moment-là, il faut revoir la loi pour boucher les trous, pour boucher les portes et les fenêtres par lesquels les fraudeurs sont entrés. Malheureusement, c'est ça. S'il n'y avait pas des fraudes électorales, bien, on allait conserver notre loi. Malheureusement. Il y a des gens qui ont comme
stratégie...
Parce que
la société est dynamique, justement. La politique également.
Mais il y a des gens, malheureusement, qui ont comme stratégie politique pour conserver le pouvoir ou accéder au pouvoir, et leur stratégie, c'est la fraude électorale. Et quand ils sont au pouvoir, ils font tout pour conserver le pouvoir, mais en fraudant la loi.
Mais pour
ce qui est arrivé.
Oui, quand vous dites que la loi, elle est très bonne, notre loi que nous avons, la charpente, est peut-être un modèle même au niveau de l'Afrique ou dans d'autres pays. Mais dans cette loi qui a été visitée, où on parle de seuil, tout le monde ne veut pas parler de seuil, dans cette loi où on parle de la parité, la représentativité de la femme, on ne l'applique pas. Et vous dites que c'est une très bonne loi.
Gerling Gondo, vous avez posé le problème du seuil. J'aimerais dire aux auditeurs de Radio Okapi et aux parlementaires qui vont examiner cette loi que le seuil qui se trouve dans la loi, encore une fois, c'était de la fraude, justement. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 à propos de ce seuil?
Vous étiez ministre?
Oui, bien sûr. Bon, j'étais là-bas.
C'est pas une façon de délivrer les sections.
C'est qui n'avait rien à voir avec le gouvernement. On discutait à plusieurs reprises du seuil. Mais nous avons dit que le seuil national est impossible à organiser dans le pays. Ça n'a aucun sens avec le seuil national qui est dans la loi. Comment voulez-vous? Vous êtes candidat aux élections à Sakania, frontière avec la Zambie, à Kasumbalesa, Sakania. Vous êtes bien élu à Sakania, territoire de Sakania, circonscription électorale. Mais pour être proclamé député, vous devez attendre des voix des membres de votre député. Parti ou de votre regroupement politique à Libengue ou à Dungu, à la frontière avec le Soudan du Sud. Nous avons dit que ça, c'est impossible. Le calcul sera
compliqué,
même au niveau central. Parce qu'en ce moment-là, pour faire le seuil national, mais ça sera calculé à Kinshasa. Il n'y a pas un contrôle démocratique. Les gens vont s'enfermer à Kinshasa entre eux. Il n'y a pas de témoins de partis politiques. Il n'y a pas d'observateurs. Ils vont calculer tout ça entre eux. Il n'y a pas de contrôle démocratique.
C'est 3 000.
Tel a le...
Ah, de 3, le seuil.
Tel n'a pas le seuil. Mais comment vous allez contrôler ça? Ça, c'est de la fraude organisée. Il faut abandonner l'idée de seuil national. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que l'idée du seuil, c'est une bonne idée. Le seuil, c'est une bonne idée. C'est une technique qui est appliquée dans d'autres démocraties. Vieille démocratie. En Allemagne, il y a le seuil de 5%. En Belgique, il y en a dans certaines élections provinciales. En France, on le trouve. En Italie ou en Espagne. Donc le seuil, c'est une pratique démocratique courante. Mais
donc en son temps, vous aviez proposé le seuil, mais pas national.
Mais il faut, pas national, mais il faut le seuil au niveau de la circonscription. Au niveau du territoire de Mweka,
qui circonscription veut dire quoi de Mweka.
Ça veut dire ceci. Le dimanche, on vote. On va voir dans le territoire de Mweka ou de Lubero, dans le Nord Kivu. On dit voilà. Ce jour-là, le dimanche, là, qui se sont déplacés pour aller voter? À Lubero ou bien à Mweka? On dit oui. À Mweka, il y a eu 50 000. Qui se sont déplacés et qui ont voté effectivement. C'est ça les votants.
Le nombre de votants.
Le nombre de votants, 50 000. À Mweka, il y a combien de sièges? Il y a combien de partis, des listes qui ont concouru, des candidats indépendants ou des regroupements politiques? Bon. On va prendre 50 000 voix, ceux qui ont voté, et on divise par 5%. Parce que s'il faut le seuil de 5%, on divise. Et on a le chiffre. 1 500 voix. Et donc, pour participer au partage de sièges de Mweka ou de Lubero, ou de Sakania, n'importe, il faut avoir atteint au moins 1500 voix.
Donc celui qui atteint 1500 voix,
il est éligible.
Il est éligible.
Il peut aller s'asseoir autour de la table pour se partager les 4 sièges ou les 3 sièges ou les 5 sièges de la circonscription. Le candidat indépendant ou la liste d'un parti politique ou du regroupement politique qui n'a pas obtenu 1500 voix, qui est autour de 1000 ou 1200, est éliminé d'office. Pourquoi on fait cela? C'est la rationalisation du scrutin proportionnel. C'est pour éviter le scrutin proportionnel intégral qu'on a eu en 2006, où il y a des candidatures fantaisistes.
Même en 2011.
Ou même en 2011. Et donc, il faut quand même assainir la scène politique.
Donc, vous partagez l'avis de ne pas supprimer le seuil, mais d'en garder, mais au niveau de la circonscription.
Mais c'est ce qui était acté, accepté autour de la discussion en 2018, de manière collective. On a pris une décision collective qu'on doit présenter au Parlement le seuil de circonscription.
Donc ça sera une erreur grave si jamais les députés qui veulent la suppression totale du seuil pour qu'on revienne à la proportionnelle.
Et donc, nous avons été surpris de voir qu'au Parlement, la délégation qui est partie là-bas est allée soutenir l'idée du seuil national qui avait été rejeté et combattu par nous. Et nous avons convaincu tout le monde pour dire non, il faut le seuil de circonscription, pas national, pas le seuil provincial, pas le seuil national, il faut le seuil dans la circonscription. C'est pratique, c'est faisable.
Mais en ce moment-là, nous aurons beaucoup de circonscriptions. Mais, on va élargir.
Non. Nous sommes arrivés et ça a été une surprise. Donc c'était de la fraude.
J'ai en 2018.
Il y a eu une clique. Je dois dénoncer cela pour le peuple congolais. Vous savez, Jelung Gembo, il y a trop de ténèbres dans notre pays. Il est temps qu'on mette un peu de lumière. Il faut aider notre peuple, aider notre pays. Il ne faut pas accepter de la fraude, de la tricherie, de la manipulation. On ne peut pas se mettre d'accord pour qu'on insère le seuil de circonscription. Et il y a une clique de vampires politiques, de malfaiteurs politiques.
Ils ont opté pour le seuil national.
En coulisses, en violation de la décision collective, ils se présentent au Parlement avec le seuil national. Et donc, il faut que la majorité parlementaire actuelle de l'Union sacrée
revienne.
Doit savoir d'où vient le seuil national. C'est une démarche frauduleuse.
Donc, il faut donc, revenir plutôt au seuil.
Et alors, je comprends la colère des autres. Parce qu'au moment d'application du seuil national, finalement, on ne l'a pas appliqué, on a triché. Parce que c'est très compliqué pour venir là-bas. Et donc, je comprends la colère et la peine de ceux qui demandent, finalement, il faut qu'on supprime le seuil. Je leur dis, bon, il ne faut pas aller à l'extrême. Le seuil, c'est une bonne chose. Garder le seuil au niveau de
ça,
la...
Ça, c'est votre proposition.
Oui.
Il faut, quels sont les avantages qu'on attirera?
Oui. Il faut le seuil de circonscription. Il faut supprimer le seuil national. C'est de la tricherie. On a injecté ça dans la loi par fraude, par tricherie. Je pèse mes mots. Et donc, il ne faut pas garder le seuil national. Il faut qu'on reste au niveau de la circonscription. Parce que ça permet d'assainir la scène politique. Il ne faut pas qu'il y ait des candidatures fantaisistes. Ça coûte cher. Parce qu'on va faire des bulletins de vote pour tous les candidats, il faut publier des documents, ça coûte cher. Et des gens qui, le jour de la campagne, ne vont même pas faire la campagne.
Tout à fait. Bon,
il y a des gens, je m'excuse beaucoup de le dire, mais ils n'ont même pas un vélo pour faire la campagne dans sa circonscription.
Pour se déplacer.
Pour se déplacer.
Point A et un point B.
Oui, mais c'est compliqué. Et donc, il faut assainir. Il faut que même les listes qui seront présentées commettent des candidats qui ont certains profils. Et donc, c'est pour cette raison, pour assainir, éviter l'émiettement des voix dans les élections, parce que le scrutin proportionnel, on va en parler, c'est très compliqué. Bien, mais il faut quand même assainir, il faut limiter les dégâts. Ça se fait dans d'autres démocraties, nous n'avons pas inventé ça. Je vous ai cité le cas de l'Allemagne, de la Belgique, de la France. Et donc, il faut garder le seuil dans la circonscription, au lieu de supprimer complètement.
Mais là encore, il faudrait bien différencier entre les élections plurinominales et les élections uninominales.
Oui, c'est exact. J'ai entendu des députés qui réclamaient le scrutin majoritaire pour abandonner
le scrutin proportionnel.
Oui, il faut comprendre que le scrutin proportionnel a été adopté à partir de discussions de l'Afrique du Sud, de Sun City. Parce qu'il y a un conflit entre la...
Les belligérants, comme on aime toujours les dire dans nos émissions.
Il y a un conflit entre deux concepts, deux choix politiques à faire. La gouvernabilité du pays et la représentativité du pays. Le scrutin proportionnel permet la représentativité de tous les
groupes
courants politiques.
Armés qui étaient à l'époque RCD.
Il faut que le RCD se retrouve, il faut que le MLC se retrouve, il faut que les autres entités, il faut que les différents courants politiques dans le pays,
c'est ainsi que l'option a été levée.
Soit représenté à l'Assemblée nationale, ou alors dans les assemblées politiques. On l'a fait. Bon, ça fonctionnait jusqu'à présent. C'est pour la représentation. Ne pas laisser les autres sur le trottoir. Il faut les amener dans les institutions. C'est la représentativité. Scrutin proportionnel. Mais il y a la gouvernabilité. C'est-à-dire, il faut qu'après les élections, qu'on n'ait pas de problème de constituer des majorités pour savoir mais qui va diriger le pays, qui n'a pas dirigé le pays. Et donc, le scrutin majoritaire, à un tour, permet directement de dégager la majorité à la sortie des urnes. On sait qui vont diriger le pays. C'est un choix à faire. Si on opte pour la gouvernabilité du pays, donc il faut le scrutin majoritaire, éviter les problèmes des listes, etc. Alors, Jelung Gembo, nous devons diviser notre pays en 500 circonscriptions.
Wow.
Donc, nous devons passer de 180 ou 182, 183 circonscriptions électorales actuelles allaient à 500. Mmh. Et donc, on prendrait par exemple Mweka. Il y a 4 sièges. On va diviser Mweka en 4 circonscriptions. Il y aura Mweka 1, Mweka 2, Mweka 3, Mweka 4.
À Kinshasa, ici, ça sera Gombe 1, Gombe 2, Gombe 3.
Oui, oui, à Kinshasa, on va aller à 60 circonscriptions. Mmh. À Lubero, même chose. À Sakania, ou chez moi, à Chilengue, ou à Mbujima.
Encore chez moi, il est beau. il est beau, ce sera pareil.
Et donc, à Idiofa, il y aura 8 circonscriptions, par exemple. Idiofa 1, 2, 3, 4, etc. pour arriver jusqu'à 500. Comme ça, dans chaque circonscription, il y aura un siège. Celui qui arrive en tête, il est élu. Un point trait. Et on sait maintenant, dès que les élections sont terminées, on sait qui a eu la majorité dans le pays. Mmh. Il n'y a plus de calculs à faire, des listes, de ceci, etc.
Parce que là, donc, si on fait le choix de la gouvernabilité.
Là, on fait le choix de la gouvernabilité. Mmh. Oui. Il y a des circonscriptions électorales aujourd'hui où il n'y a qu'un seul siège. Mmh. Là, on applique déjà le scrutin majoritaire.
Mmh. Parce qu'il y a un seul siège, c'est lui qui a plus de voix.
Il passe. Mais on peut généraliser sur l'ensemble du pays. Mmh. Mais diviser ce pays en 500 circonscriptions, c'est une tâche énorme, gigantesque.
Et ça prend du temps.
Ça prend du
temps. Parce qu'il faut une cartographie électorale. Des experts doivent être pris en compte.
Oui, oui. Il faut faire appel à l'Institut géographique du Congo. Mmh. Il faut voir quelles sont les limites de chaque circonscription, comment on va les partager. C'est des batailles, c'est des... Ben, il faut faire ce choix-là.
C'est pourquoi vous proposez...
Et on ne peut pas le faire maintenant. Mmh. On ne peut pas le faire maintenant. Les élections, c'est déjà demain. On ne peut pas le faire maintenant. Il faut donc rester dans le scrutin proportionnel, mais il faut ramener le seuil au niveau de la circonscription. Au niveau des Ilebo, chez toi, au niveau de Mweka, au niveau de Kasangoulou, ou de Tchela, etc., ou Bazangungu. Donc, il faut ramener, qu'on calcule le seuil. Et c'est très facile à calculer, le seuil au niveau de la circonscription. Parce que là, on connaît le nombre des votants dans la circonscription. Mmh. C'est 20 000 ou c'est 30 000. Mmh. On connaît.
Voilà.
Et on sait calculer le 3%.
Professeur, parce qu'il y a déjà des auditeurs qui commencent à appeler, mais il y a deux inquiétudes qui ont été également soulevées lors des débats généraux. Oui. La question sur la représentation de la femme. Oui. Il faut que la femme soit représentée. Le président Bosso a insisté à chaque fois qu'un député intervenait pour dire, mais mentionnez la femme, il faut défendre la femme. Est-ce que là, finalement, on ne risque pas de violer l'article 14 de la Constitution? Parce que Tadi Wamba a insisté pour dire nous risquons d'aller au-delà des limites constitutionnelles. Parce que ce n'est pas une faveur.
Jérôme Kembo, vous comme moi, nous avons été mis au monde par une femme. Mm-hmm. Donc nous devons avoir du respect pour nos femmes qui jouent un grand rôle dans notre pays, le développement, l'éducation de nos enfants. Il faut respecter nos femmes, leurs droits, leur dignité et les aider aussi à pouvoir accéder haute fonction, gérer, être des députés, etc. On ne peut pas être contre ça. Mais il ne faut pas chercher à créer des discriminations dans le pays. Et là, on va violer aussi la Constitution. Mmh. L'accès aux fonctions publiques, aux charges publiques, on ne doit pas créer des discriminations.
Ça doit être compétitif.
J'ai reçu, à l'époque, quand j'étais parlementaire, des groupes de femmes qui venaient faire ce qu'elles appellent le plaidoyer pour la parité. Mmh. J'ai eu une discussion avec les dames. J'ai dit, voilà, il faut rester sur la terre. Il faut rester sur la terre. Vous voulez avoir des quotas imposés aux partis politiques des quotas sur les listes.
30%, 33%, 40%.
Oui. Malheureusement, j'ai eu une mauvaise expérience. Quand j'étais étudiant à l'université,
il y avait ce problème de quota.
Je vais entrer à l'université de Kinshasa, j'aimais le droit. J'arrive là-bas, je dépose mon dossier. On dit non, le quota du Kasaï oriental est déjà atteint. Citoyen Chibangu, c'était à l'époque. On ne peut pas t'inscrire cette année ici parce que le quota du Kasaï oriental est déjà atteint. L'année suivante, même chose. Je n'ai été inscrit en droit à l'université que 2 ans après. Pendant 2 ans, je n'ai pas été inscrit à cause de quota. Et quand je suis inscrit, j'entre à l'université, je trouve un professeur extraordinaire, que j'aime, dont je garde un très bon souvenir. Professeur Diélo Mpenge Osako.
Ancien ministre de l'enseignement supérieur.
Un grand constitutionnaliste qui m'a fait aimer le droit constitutionnel. J'ai aimé le droit public, parce que je suis un publiciste. J'aime le droit public, le droit administratif, le droit constitutionnel. C'est avec Diélo Mpenge qui m'a appris cela. Mais qu'est-ce qu'il nous disait? Il dit, mais je vois, le MPR, parti État, impose des quotas. Au niveau de l'inscription, c'est à l'entrée.
Au niveau du recrutement, c'est
à
l'entrée.
C'est à l'entrée, il y a des quotas. Mmh. Mais à la sortie.
Combien sortent?
Mais à la sortie, il n'y a pas de quotas. Mmh. ce sont les plus aptes, les étudiants les plus intelligents, les plus dynamiques, les studieux, comprennent, qui vont
qui
avoir,
arrivent à la fin.
Qui vont avoir, enfin, là il n'y a pas de quota, donc ça ne sert à rien d'éliminer les meilleurs, qui peuvent dire des meilleurs, à cause des quotas. Et puis le Machar Mobutu, avec les critiques
donc, des quotas. Donc cette histoire des quotas, des femmes, ça ne tient pas la
route. L'histoire des femmes, vous savez, Jérôme Guembo, vous allez imposer des quotas sur des listes.
À l'entrée. Mais
là, à l'entrée.
Et à la sortie.
Mais pendant la campagne. Mais pendant la campagne, c'est qui s'agite là, les femmes, les femmes. Qui va donner les moyens aux femmes pour faire la campagne? Qui va obliger les électeurs pour voter pour les femmes? D'ailleurs, il y a même des femmes qui ne veulent pas voter pour les autres femmes. Alors, vous réglez quel problème? C'est lui qui fait des listes, le parti politique qui fait des listes, il cherche les meilleurs. Ceux qui ont des profils.
Parce qu'il ne doit pas donner de l'argent pour quelqu'un qui ne va pas mouiller les maillots,
qui n'est même pas connu dans sa circonscription. La rigueur dans le choix des candidats est la même pour les hommes et pour les femmes.
On va y revenir peut-être avec les auditeurs, mais
moi, je ne peux pas mettre des femmes sur la liste.
La dernière préoccupation des.
Qui ne sont pas connues. Et puis, il faut trouver ces femmes-là, comme il faut trouver les hommes.
Il ne faut pas que ce soit pas une liste inconnue qui viendra.
Oui, dans la circonscription. Alors, la rigueur est la même pour la
troisième
femme.
Inquiétude avant d'ouvrir les standards.
Je suis d'accord, il faut laisser que la démocratie joue pleinement. Les histoires des quotas, de listes. En France, par exemple, on a dit oui, il faut mettre autant de femmes sur des listes. Si vous ne mettez pas les femmes sur les listes, vous devez payer des pénalités, des amendes. Eh bien, les partis politiques français ont préféré payer les amendes au lieu de mettre les femmes sur les listes. Parce qu'il faut gagner les élections.
Donc, ce qu'ils disent que refuser les quotas de la femme, ce n'est pas respecter les règles de la démocratie. Est-ce que la démocratie existe?
C'est du n'importe quoi. Il faut laisser le jeu démocratique. Il y a des femmes compétentes, intelligentes, dynamiques, battantes, qui sont décomplexées.
Mais qui n'ont pas de parti politique.
Mais non, doivent s'inscrire. D'abord, il faut trouver les femmes qui sont engagées en politique. Vous n'allez pas aller débaucher les femmes mariées, les femmes d'autrui, pour dire, venez, on va faire la politique. Vous arrivez chez moi, à Chilengue, là-bas, avec les poids culturels, les mœurs, les coutumes. Vous allez prendre des femmes mariées.
Donc, cette histoire, vous conseillez aux députés de laisser cette affaire des quotas.
Il faut encourager les femmes à s'engager en politique. Il faut encourager les femmes à pouvoir créer elles-mêmes des partis politiques. Et donc, ça, il faut le faire. Il n'y a pas de limitation. Les quotas sur des listes, etc., parité, créée par
qu'on ne pose pas. Alors, la suppléance familiale.
C'est ça, mon
point. En un mot, avant qu'on ouvre les standards. La suppléance familiale. Les débats tournés, en tout cas, tous les députés sont d'avis qu'il faut supprimer la suppléance familiale. Et encore là, Bataliwamba parlait de la discrimination.
Oui, je suis d'accord avec ça. Il faut éviter de discrimination. Les enfants des médecins deviennent des médecins. Les enfants des avocats deviennent des avocats. Les enfants des cultivateurs deviennent des cultivateurs.
C'est un choix à faire.
Un parent qui fait la politique, il peut prendre son fils en disant « Vous allez faire le même métier que moi ». Donc il faut arrêter ce genre de choses. Ce n'est pas ça la démocratie. On ne va pas gouverner le pays, réussir ce pays à faire une grande nation, à vouloir créer des particularités, des exclusions, etc. Il faut laisser les citoyens, les Congolais, faire la politique correctement. Il ne faut pas. D'ailleurs, ils sont combien?
Alors, prof, si vous le voulez, on va ouvrir les standards et accueillir les auditeurs qui nous ont rejoints à ces niveaux du débat. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Il y a des rendez-vous qu'on ne rate pas. C'est mardi 3 mai 2022 à 13h05 heure de Kinshasa. L'émission Parole aux auditeurs sur Radio Capi aborde un sujet sur système de traçabilité des produits d'accise. Qu'est-ce qui crée la discordance entre la FEC, les ministres des Finances Nicolas Kazadi et la DGDL? Les magazines du débat citoyen abordent ces sujets avec M. Lenny Ilondo, administrateur à la FEC et président de la Commission nationale industrie. Pour participer au débat et poser vos questions, appelez au numéro 081 890 49 69. 081 890 49 69. Vous pouvez également poster un commentaire sur notre page Facebook. Parole aux auditeurs, Trait d'Union, Radio Kapi. Parole aux auditeurs, à vous la parole.
Une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Ces débats sur la loi électorale, lorsqu'il y a eu le débat général, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur cette question. Et vous venez de suivre notre invité, Raphaël. Vous avez la grâce, si vous voulez, donc d'ouvrir les débats. Vous êtes à Bounia, Raphaël. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur JR. Ainsi que bonjour, professeur Chiban Salala.
Vous avez la parole. Comment réagissez-vous?
Raphaël Kanyangala depuis Bounia.
Allez-y, vous avez la parole. Rapidement.
Oui. à propos de ce que les députés Matadi Wamba, oui, c'est une belle idée. Mais ce qui est déplorable, ici chez nous, nous prenons la démocratie comme un royaume. Je prends, par exemple, le problème là des représentations familiales.
Les mêmes
autorités qui ont régné depuis 1960, c'est aujourd'hui, nous avons toujours leurs enfants.
Leurs enfants, donc la suppléance familiale, vous n'en voulez pas. Merci beaucoup, Raphaël. Alors, Jeannot, vous êtes à Kananga. Jeannot, bonjour.
Bonjour, Gérard. Bonjour à tout le monde.
Vous avez la parole, Jeannot.
Merci, Gérard, pour la parole. Je viens de suivre votre invité, Gérard. Vous voyez la manière dont il est en train de sophistiquer les élections. Ça reflète vraiment le politique congolais. Donc, ici, au niveau de la base, nous avons des agronomes, nous avons des leaders locaux qui, eux aussi, veulent devenir des députés. Mais les députés, qu'est-ce qu'ils font au niveau du Parlement? Ils arrivent à monter savamment des approches, notamment le seuil, les problèmes de la suppléance, pour empêcher les vrais leaders qui sont au niveau local d'être aussi des députés. Donc, ces gens-là, en 2018, les élections de 2018, c'était une honte d'État. Ces histoires étaient savamment montées par l'ancienne majorité afin de plaire à l'autorité morale. Aujourd'hui, nous sommes contre le seuil, nous sommes contre la suppléance.
Oui, mais le professeur Tshibangouka l'a expliqué clairement. Ils sont partis du seuil de la circonscription, mais ceux qui sont allés au niveau du Parlement ont défendu plutôt le seuil national qui a causé tous ces problèmes, notamment la fraude.
Le professeur Tshibangouka est en train de comparer notre pays à l'Allemagne. Ça, ce n'est pas vrai. Nous sommes dans un contexte. Il faudra mettre les élections dans notre contexte, GR. Le professeur,
vous voulez carrément qu'on puisse supprimer le seuil. Qu'on en parle pas.
Le professeur, il est professeur d'université. Est-ce qu'il sait qu'au niveau local ici, nous avons des gens qui se battent chaque jour ici à Kananga, qui sont prêts à aller défendre valablement la ville de Kananga, que ce gens qui n'arrivent jamais ici gère. Il y a des députés qui sont partis depuis 2018, qui ne sont jamais rentrés ici, et qui,
l'année prochaine... Mais ceux qui seront là, on ne vous oblige pas de les voter, de voter pour eux.
Non,
mais c'est à vous de sanctionner
Le problème de seuil électoral, c'est une manière d'empêcher les vrais leaders locaux... Non. De postuler aux élections législatives. Nous, nous sommes contre GR.
Vous êtes contre. Merci, Jeannot.
Les élections, le Parlement de la RDC, mais c'est une honte, GR, quand vous trouvez un papa avec son épouse. Quand le professeur dit, je suis médecin, je peux faire venir...
Je peux devenir médecin.
Oui,
donc, vous êtes contre. Vous dites qu'on puisse supprimer la suppléance. Ce n'est pas une discrimination, parce que la Constitution met des limites quant à ce... Nul ne peut, à cause de la religion, la tribu, la culture, empêcher l'autre à accéder, par exemple, à un certain droit.
Non, Gérard, c'était une approche savamment montée par le FCC pour ne pas...
Voilà, merci beaucoup, Jeannot. Alors, on va accueillir Honorable Bintou. Honorable Bintou, élu de Katanda. Honorable Bintou, vous êtes avec nous, Toumba.
Oui, Gérard, bonjour.
Qui ça, Bintou? Honorable Bintou. Bintou Toumba.
Oui.
Élu de
oui,
Katanga. Alors, dites-nous un peu, parce qu'il y a quand même cette confusion. Aujourd'hui, la suppléance familiale, les débats qui a tourné autour de ça au Parlement, qu'est-ce qu'on peut retenir sur ça?
Bon, je tiens d'abord à saluer le professeur et tous les auditeurs de la radio Okapi. Ce qu'il faut retenir, c'est que parmi les députés, il y a eu environ 86 intervenants. Le premier jour, c'était 25, deuxième jour, 25, troisième jour, c'était à peu près 36 intervenants. C'est plus de 80 intervenants pour ce débat, parmi lesquels il y en a qui ont soutenu, qui sont allés dans le sens des propositions faites par les G13, en ce qui concerne la suppléance, et d'autres qui se sont opposés. Comme ce que le professeur vient de dire, puisque ça sera une discrimination vis-à-vis de notre constitution. Alors, les options, nous attendons des réponses des G13 aujourd'hui.
Mais en termes de pourcentage, majoritairement,
ils viendront pour répondre.
La majorité des députés.
À ne pas violer la constitution. Et puis, toutes les dispositions tout ce qui a été proposé en qui énerve la Constitution ne peuvent pas être abordés à ce moment puisque nous ne sommes pas dans l'état de siège. Nous ne pouvons pas toucher à tout ce qui va à l'encontre de la Constitution. Quand le problème des suppléants, il faut savoir aussi que il y a un problème. Quand on fait les choix, il faut faire les meilleurs choix des candidats qui doivent vous accompagner aussi pour les pour aller aux élections. Normalement, mais le premier suppléant et le deuxième suppléant, ce sont des candidats comme les candidats titulaires. Ils doivent remplir les mêmes critères. Et il faut vraiment choisir les meilleurs et non pas avoir la médiocrité.
Voilà. Alors une question de curiosité honorable. Est-ce que vous avez pensé, parce qu'on a toujours dit la loi n'a jamais été contraignante, est-ce que cette fois-ci il y a des sanctions prévues à l'endroit des animateurs de la CENI, par exemple?
Bon, c'est parmi les propositions qui ont été faites, mais jusque-là, comme nous n'avons pas encore les dernières options, la plénière ne s'étant pas encore, n'ayant pas encore levé les options, je pense qu'il faut, nous devons prendre notre mal à patience, en attendant qu'on ait des réponses et que la plénière se décide, et puis qu'on aille travailler au niveau de la commission PAJ, afin d'avoir une version finale. Alors, c'est que parmi les conditions d'inéligibilité, on a prévu beaucoup, mais moi j'avais plaidé pour qu'on puisse ajouter à cela des crimes économiques. Vous savez, la République souffre des problèmes de détournement de l'argent, puisque il faut moraliser la classe politique. Donc, quand vous avez une fonction, ce n'est pas pour aller voler l'argent, de la République. Alors, il faut que cela soit inscrit noir sur blanc dans la loi, que tout criminel économique que ne peut pas postuler, il devient automatiquement inéligible. Donc, et cela va moraliser vraiment, ça va aider tant soit peu à moraliser la classe politique.
Merci beaucoup.
Un autre élément que nous avons plaidé, c'est par rapport à la création des partis politiques. Vous voyez qu'il y a environ nous avons plus de 700-800 partis politiques. Et il y a des partis politiques qui naissent même à la veille des élections. Vous vous rappelez, en 2018, on a créé 200 partis politiques au même moment. Et les AAA, les BBB, les CCC, les PPP. Alors, tout ça, ça n'a pas permis aux électeurs de bien identifier pour quel parti politique il est en train de voter. Alors, il faut limiter le temps de création des partis politiques, surtout, mais prendre ne fût-ce qu'un timing de 3 ans. Ça veut dire un parti politique créé ici. Un parti politique créé
à la veille des élections,
de 3 ans, ne doit pas concourir aux élections. Quant à ce qui concerne la proportionnalité, les scrutins majoritaires, les scrutins majoritaires simples, cette assertion-là, donc les gens, la tendance est au rejet de cela. On va revenir au proportionnel. Alors, il y a eu beaucoup d'autres innovations
pour lesquelles on ne sera pas le temps de les quotas.
Donc,
merci beaucoup.
La tendance n'accepte pas cela pour que les partis politiques soient, qu'on puisse pas recevoir des listes, juste puisque on n'a pas respecté de mettre les femmes. On n'a pas fait ceci. Il faut la méritocratie. Puisque les élections, c'est une compétition.
C'est une compétition, il ne faut pas favoriser.
Il n'y a pas de favoritisme à faire. Comme l'a dit, l'a si bien dit le professeur. Donc, les jeux ouverts, c'est la démocratie qui doit l'emporter.
Voilà. Merci. Non pas les favoritismes. Merci beaucoup, honorable Bintou, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission et apporter quelques éclairages. On va prendre Vital Mouteba, qui est à Kinshasa. Pardon, Kisangani. Vital, vous êtes avec nous?
Bonjour, mon frère. Bonjour. Je salue tout le monde, je salue aussi l'invité, d'ailleurs, qui est mon oncle paternel. J'ai tenu à ce que nous puissions parler de cette affaire de suppléance avec beaucoup plus de pincettes, hein, parce que je ne sais pas comment vous allez trouver un suppléant qui n'a pas la même prise électorale que vous dans un coin et dire après que non, on ne doit pas élaguer cela, on doit garder cela. Ce qu'il faudrait enlever, c'est que qu'un candidat ne se présente qu'à un seul scrutin. Pas le même candidat, vous le trouvez.
Le cumul des candidatures.
National et ainsi de suite.
Provincial et sénateur en même temps. Donc vous voulez qu'on puisse vraiment le supprimer, le cumul des candidatures.
Oui, le cumul des candidatures doit être supprimé. mais garder la suppléance parce que
la suppléance familiale.
L'électorat. Au cas où le titulaire est parti, celui qui reste peut encore
voilà. Merci beaucoup Vital. Il y a beaucoup de gens, en tout cas ils sont plus de 3000 à avoir été touchés par ces sujets, voilà. On ne saura pas vous garder le plus longtemps. Peter, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Peter.
Bonjour Monsieur Jure, bonjour à notre invité et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous avez la parole, quelle est votre réaction?
Oui, merci Monsieur Jure. Nous avons vraiment suivi les inquiétudes soulevées par l'honorable Dekenge, mais moi je pense que ces inquiétudes ne sont pas fondées du fait que Monsieur Jure, nous avons toujours décrié de la moralité de la classe politique congolaise. Je pense que la loi qui est proposée aujourd'hui dont nous débattons et laquelle de loi, la proposition sera aujourd'hui débattue au niveau de l'Assemblée nationale, Monsieur Jure. Je pense que cette loi ici, c'est une loi qui résulte ici d'une expérience et d'une expertise de constituants. Et aujourd'hui, je pense que, M. J.R., cette loi dont nous faisons débat, c'est le fruit d'un constat des échéances électorales passées, de 2006, de 2011 ainsi que de 2018. C'est au regard des difficultés, des contraintes évoquées, nécessairement liées d'abord à quoi contentieux électoraux. Mmh. Je pense que cette loi ici va favoriser ce genre de choses. Et aussi également ce que nous avons connu de l'exclusion de certains candidats potentiels et qu'on soit par rapport au CEI et également la participation de la femme, M. Gilles, je pense que c'est une très bonne chose.
Merci
aujourd'hui,
beaucoup.
Nous, pour nous les jeunes, nous avons du mal à exprimer notre opinion parce que aujourd'hui les jeunes sont derrière les candidats, tout ça ainsi de suite. Mais jusque-là, la voix de la jeunesse n'est pas entendue par rapport à cette loi.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Peter. On ne saura pas aller plus loin. Il est temps pour nous de revenir. On sait que vous êtes nombreux, en tout cas plus de 3000, à avoir lu et commenté ce sujet. On ne va pas apprendre tout le monde hein, parce que les temps nous fait pratiquement défaut. On va revenir de l'autre côté des standards, mais tout en rappelant à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également participer à ces débats en composant les 081 890 63 30.
Parole aux auditeurs.
Voilà, merci beaucoup de votre fidélité à Radio Capi. Quand nous lisons le résumé des innovations qu'apporte cette loi, cette proposition de loi de G13, on se rend compte, professeur, après avoir écouté les uns et les autres, que la question sur la compilation, finalement, on l'a oublié, mais pourtant c'est quand même le centre de tout, la compilation. Les élections passées, il n'y a même pas eu le travail fini au niveau de la compilation, on avait publié les résultats.
Merci beaucoup, cher Lungembo. Je tiens d'abord à saluer tous les intervenants qui ont posé des questions et en particulier honorable Bintou Ntumba qui est de Katanda et c'est mon voisin. Moi, je suis de Chilenge, Katanda c'est à côté, nous sommes des voisins.
Tout à fait.
Et donc, je félicite, je vous remercie, honorable Bintou, pour votre contribution lumineuse. Eh bien, cher Lungembo, vous avez touché le cœur de la réforme électorale. Pour moi, tout ce que nous avons dit ici, il n'y a aucune innovation majeure.
C'est la publication bureau par bureau.
Pour améliorer notre gouvernance électorale. On est là dans des épiphénomènes. Oui, il faut qu'il y ait... Les membres des familles ne peuvent pas être des suppléants, etc. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, s'il y a un candidat dans votre circonscription qui a pris son fils ou sa femme, il ne faut pas voter pour lui.
Mais en 2006, vous aviez un suppléant qui vous avait causé du tort.
C'est ce
qui a été dit à la presse.
Vous ne savez pas pourquoi les gens sont arrivés à prendre les membres de famille. Mais on a eu des suppléants.
Parce que vous en avez été victime.
Justement, vous avez eu des suppléants qui ont fait la contre-campagne contre les titulaires. Vous ne savez pas. Il y a eu des bagarres terribles dans la première législature de 2006-2011 entre les titulaires et les suppléants. Ça a été dramatique. Je ne peux pas vous dire tout ce qui s'est passé à l'époque. Et donc, les gens se sont dit, alors il faut se replier au niveau de la famille. Ça sécurise. Mais non, si un candidat se présente avec son fils comme suppléant, ne votez pas pour lui. C'est la démocratie.
Voilà.
C'est très simple. Au lieu de faire des interdictions, des discriminations. Monsieur, vous venez avec votre femme, comme ça, si vous partez, la femme vient, on ne vote pas pour vous. Faites la campagne, c'est tout. C'est plus simple que cela. Ça ne sert à rien de mettre de chasser les gens dans les solutions. Et deuxièmement, bon. Monsieur Jeannot de Kananga, Monsieur Jeannot, le seuil n'empêche personne de se présenter aux élections. Les candidats indépendants.
Parce que c'est un problème, l'interprétation. Les gens, quand on parle de seuil, c'est comme si c'est un nom diabolique, satanique. Mais pourtant, c'est dans la gouvernance électorale.
Oui, le seuil, ce n'est pas un démon.
C'est pas un démon.
C'est pas un diable. Il faut chasser, il faut pas aller implorer Dieu pour qu'on chasse ce démon.
Parce que même à la cité, bon, les communs, les mortels, seuil, balongola seuil, voilà, balongola seuil.
Non, mais il y a l'argent qu'on paye.
La caution.
Il faut encore demander peut-être qu'on ne paye pas.
C'est la caution.
C'est le cautionnement électoral. Et donc, il y a des conditions. En France, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut amener 500 signatures des élus. C'est une condition. On ne va pas dire non, il ne faut pas, parce que 500 signatures, on empêche quelqu'un à être candidat à l'élection présidentielle. Mais c'est une condition qu'il faut faire. 500 signatures, vous ne les avez pas, monsieur, vous n'êtes pas candidat à l'élection présidentielle en France. Donc, le seuil, ce n'est pas un diable, ce n'est pas un démon. Le seuil permet tout simplement d'éviter des candidatures fantaisistes, d'éviter la dispersion des voix dans la circonscription. Il faut faire en sorte que les sièges dans les circonscriptions soient distribués entre des forces politiques représentatives. Si vous n'avez que 100 voix, 150 voix, vous ne représentez pas, vous ne pèsez pas politiquement dans votre circonscription comme un parti politique qui a 80 000 voix. Et donc, c'est ça. Il faut assainir. Vous voyez, c'est très important. On n'empêche pas, Jeannot, les agronomes
ou les architectes, ou
les médecins vétérinaires ou les architectes, d'être candidats à Kananga, à Demba, à Dibaya ou à Kazumba, d'être des candidats, d'adhérer dans les partis politiques ou dans les regroupements politiques pour être là. Mais si vous voulez aller seul, vous voulez aller seul, candidat indépendant, mais vous savez
que vous devez...
Oui, vous devez apprendre ça. Donc, il faut garder le seuil au niveau de la circonscription. C'est très bien. Mais il faut annuler complètement le seuil au niveau national et au niveau provincial. C'était de la fraude.
Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la compilation.
C'est le cœur du problème, Jérôme Guimbo. J'aimerais que Honorable Bintou, qui est puisse défendre ça lors du prochain débat. Quand la paix agit, viendra faire l'oratoire. Le problème dans notre pays, Jérôme Guimbo, ce n'est pas le problème des suppléants, des femmes, etc. C'est pas ça. Le problème chez nous, c'est la fraude électorale. Ceux qui sont élus...
Qui a bien des cas orchestrés par les centres de compilation.
Oui. Ceux qui sont élus... Ne sont pas proclamés élus. Il y en a même qui n'ont pas fait de campagne électorale dans leur circonscription et qui sont proclamés élus. Il y a eu des cas même où des gens qui n'étaient même pas des candidats.
Ils se sont retrouvés des candidats. Hein? Non, parce que...
Honorable Ntumba, vous voyez chez vous, bientôt, chez vous à Katanda, il y a quelqu'un qui n'était pas candidat à Katanda, qui n'a pas fait campagne comme vous à Katanda, mais quand on proclame, il est député élu à Katanda. Il y a eu des cas comme ça en 2018. Donc, le problème, c'est la fraude électorale. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renforcer la transparence, l'honnêteté des élections au niveau des centres de compilation. Je vois que le débat n'a pas été soulevé à ce sujet-là. Les bureaux de vote, nous en avons à peu près 88 000. On a tendance à les augmenter. On va arriver même à 100 000 bureaux de vote. C'est beaucoup. Et ce n'est pas au bureau, on ne va pas... Les résultats avec la machine à voter, et je suis partisan de la machine à voter, il faut garder la machine à voter. Ce n'est pas la machine qui est mauvaise, mais c'est les hommes qui sont mauvais. Donc, la machine à voter permet de donner à chaque candidat, à chaque liste des partis politiques, le procès verbal des résultats. Donc vous êtes à Katanda, honorable Bintou, eh bien vous avez le résultat bureau par vote. Si Katanda a 300 bureaux de vote ou 250 bureaux de vote ou à Ilebo, eh bien vous avez la possibilité d'avoir 350 PV de résultats dans votre bureau de vote. Vous avez ça. Et si vous êtes bien organisé, vous pouvez déjà, avec votre téléphone portable, calculer le nombre de voix que votre liste a obtenu.
Donc les élections passées, on n'avait pas mis à profit les centres de compilation.
Et le problème, ce n'est pas au bureau de vote, parce que là, vous aurez votre PV. Il faut
et c'est PV. Ce qu'on fait toujours, parce qu'on publie les résultats, on l'affiche même.
Mais le problème, c'est au niveau des centres de compilation.
Là où... Il faut verrouiller même.
Bon, pour les auditeurs, compilation signifie calcul.
Oui. Là où on met ensemble tous les résultats,
Le mot compilation signifie calcul. Ce n'est pas un démon, un gars. C'est le calcul. Donc c'est là où on rassemble les résultats de tous les bureaux de vote. C'est au chef-lieu du territoire, chef-lieu de la circonscription. C'est là où on doit calculer. Pour voir dans cette circonscription de Popokabaka ou de Kyoto. Bon, tel parti politique a eu combien de voix. C'est là où on fait le classe. C'est là où on dégage le seuil, c'est là où on dégage les élus. Et on affiche les résultats de la circonscription pour dire que dans cette telle circonscription, c'est tel et tel qui ont été élus. Mmh. En fait, la vraie proclamation des résultats, c'est là-bas, c'est au centre de compilation.
C'est pourquoi Batadiwamba propose qu'on puisse mettre au niveau des centres de compilation,
nous
ou au niveau
fait,
des bureaux.
Nous l'avons fait avec vous ici, dans l'émission passée qu'on a organisée avec vous ici. J'avais proposé, je demande à Honorable Bintou de soutenir cette idée. Il faut qu'on mette des avocats et des magistrats dans les centres de compilation. Là où on fait les calculs. La bataille, c'est ça. Il suffit seulement de dépenser de l'argent pour la campagne électorale, dépenser, etc. Mais le moment crucial...
On peut les réquisitionner pendant une semaine ou deux semaines.
Où on doit proclamer les résultats, eh bien, ils ne sont pas là. Et donc, il faut mettre des avocats et des magistrats qui sont assermentés, qui sont des juristes, pour deux raisons. Ils vont interpréter correctement la loi électorale. Ce sont des juristes, des praticiens du droit. Il y aura des magistrats. Si quelqu'un commet des ordres, qui vient faire des ordres là-bas, eh bien, il y a un magistrat qui peut demander aux OPJ d'arrêter le type et de l'entendre sur le procès verbal. Voyez-vous. Et en plus, ce qui est très important, qu'il y ait des juristes, des praticiens, voilà, c'est qu'il y aura le contentieux des corrections des erreurs matérielles.
Déjà en amont.
Oui, c'est prévu dans la loi électorale.
Oui.
Et donc, si on proclame les résultats, on proclame les voix, on affiche, vous constatez que le centre de compilation n'a pas bien calculé vos voix. Vous faites le recours. Vous faites le recours devant ceux qui ont compté les voix. Ils sont devant vous.
Et qui sont assermentés, qui peuvent aussi déjà.
Mais c'est des juristes, des avocats et des magistrats qui vont vous dire, vous dites voilà, mais vous avez mal calculé mes voix. Voici ce que moi j'ai obtenu, le calcul que j'ai fait sur les 300 bureaux de vote. J'ai autant de voix. Mon parti a autant de voix. Mais ce que vous donnez là, ce n'est pas conforme. Alors ceux qui ont compté les voix, ils vont revoir. Sur place.
Tout à fait.
Et donc, ils vont vous dire si vous avez raison, si vous avez tort. Si vous avez raison, ils vont corriger.
Ça éviterait des longues files
Oui, en ce moment-là, il y a la transparence, il y a l'apaisement. Voyez-vous, il n'y aura pas de fraude. Et je ne vois pas qui viendra à la Cour constitutionnelle
pour
dire oui, on a volé mes voix. Oui. Non, ça se règle
déjà
d'abord.
Au niveau du centre de compilation.
Centre de compilation. Recours pour corriger les erreurs matérielles.
Donc il faut déjà au niveau de la loi qu'on puisse l'écrire clairement.
On peut le mettre dans la loi. Les centres de compilation seront dirigés par des avocats et des magistrats choisis par la CENI.
Alors professeur, on va écouter deux autres points.
Je vais terminer parce que ça c'est très important. Parce qu'on dit fraude, mais il faut combattre la fraude. C'est par ce moyen-là. C'est là. Au lieu de perdre du temps avec les questions, des suppléants, des femmes, ceci. La bataille, c'est là. Et donc, dès que nous avons réussi à faire ça, si ce n'est pas fait dans la loi, dans mon système à moi, si ce n'est pas fait dans la loi, dans mon système, la CENI peut le faire. Parce que la CENI
peut prendre une décision.
La CENI peut agir.
Comme elle avait pris une décision pour les machines à voter. Et tout,
on n'a pas à mettre dans la loi. La CENI peut dire, oui, moi, je déploie dans les centres de compilation
que
des avocats, des juristes, des praticiens. On sait retracer ceux qui sont dans le centre. On dit qu'il y avait dans tel centre... À Katanda, chez Honorable Bintou, il y avait tel avocat qui de tel barreau, il y avait tel magistrat de tel parquet ou de tribunal.
On peut sanctionner quand même.
Et s'il y a des désordres là-bas, ils seront responsables. Et donc, je pense, Jean-Luc, que c'est ça l'innovation la plus importante. La lutte contre la corruption.
On ne révise pas la loi sans apporter réellement des innovations. Alors, on va écouter les deux autres et puis on reviendra sur une préoccupation et puis on va conclure l'émission. François, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour François. François, vous êtes avec nous? Alors, on va prendre Alidor Mapouya qui est à Kananga. Alidor, bonjour.
Bonjour, bonjour professeur Chibam Kalala.
Voilà, Alidor, vous avez la parole. Allez, une phrase, parce qu'on ne doit pas aller plus loin. Il y a d'autres choses qui ont été dites déjà par vos prédécesseurs. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Oui, monsieur Gilles, nous nous rendons compte que par le passé, on a toujours enregistré des lois électorales taillées sur mesure. Au lieu de réviser la loi dans le sens des attentes de la population, mais plutôt on révise dans la loi pour profiter aux politiciens ou à leur famille politique. C'est comme ça que cette fois-ci nous recommandons à nos députés de réviser la loi dans le sens qui puisse favoriser l'épanouissement, d'éviter la fraude électorale, mais beaucoup plus de renforcer aussi des sanctions par rapport aux auteurs de la fraude électorale. Il faut que ces gens-là soient sévèrement sanctionnés, parce que par le passé, ces gens-là bénéficiaient d'un
seul... La loi était vraiment muette. La loi était muette. Donc il faut vraiment des sanctions. Merci beaucoup. Alors Ismaël, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Ismaël.
Bonjour Jérôme, bonjour à tout le monde.
Alors en une phrase, quelle est votre réaction?
Ma motivation est simple. Au lieu de contester les résultats, il a fallu à ce qu'il y ait un moyen. Le moyen, c'est ce seul le parlementaire qui pourrait élaborer une loi qui doit régir tout le monde plutôt que d'avoir une contestation. Bon, dans le domaine électoral, c'est un domaine plus en Afrique. À chaque publication des résultats, il y a toujours la contestation. Mais si on se demandait pourquoi cette contestation, c'est parce que les choses tournent aussi souvent en faveur de ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui ont beaucoup d'argent. Ils peuvent s'organiser pour passer. Mais en plus de cela, les députés pourraient être vigilants. Mais même les députés vont faire en sorte à ce qu'ils font.
Voilà. Merci beaucoup. Alors François, je crois qu'on ne saura pas vous accorder la parole. Il y a Ismaël qui a évoqué la question d'argent. Il y a ceux qui ont beaucoup d'argent qui risquent de démoraliser la campagne. Ouais. Alors professeur, est-ce que on peut pas penser aussi à mettre dans cette loi, en tout cas une incise, où on amène déjà à moraliser la campagne? Parce que ceux qui ont beaucoup d'argent, ils vont battre campagne au-delà de... Même avec des moyens de l'État.
Vous avez raison. Vous touchez une question... un problème auquel je suis très attaché. Il faut qu'on y trouve une solution. Mais d'abord un mot. Je rappelle que le président du Sénat, le professeur Bahati, a lancé un cri d'alarme. Il a alerté tout le monde. J'aimerais répéter ce qu'il a dit. Il est président du Sénat. Et c'est quelqu'un qui est depuis des décennies dans le champ politique dans notre pays. Et il sait de quoi il parle. Il a dit, monsieur, n'oubliez pas qu'on a proclamé les résultats en 2018 alors qu'on n'avait même pas commencé la compilation des résultats. Et que ça peut préjudicier à tout le monde. Nous avions pensé, moi et beaucoup d'autres, que ce qu'on a vécu sous Mobutu, où on proclamait les résultats par la voix du Zaïre vers 13h, le journal de 13h, vous êtes choisi, vous connaissez l'époque, alors qu'on n'avait même pas commencé à dépouiller le bulletin de vote. On pensait que c'était fini avec Mobutu. Malheureusement, on a revécu ça en 2018. On a proclamé des résultats alors qu'on n'a pas compilé, on n'a pas compté les voix des candidats, là où il fallait les compter dans le centre de compilation. C'est très grave. Ce qui s'est passé en 2018, c'est une honte. Il ne faut pas que ça le répète. Et beaucoup de gens ont été victimes de cette histoire. Voyez-vous. Parce qu'il y a des gens qui ont monté la stratégie de fraude, de tricherie, pour conserver le pouvoir. Et donc, pour combattre cela, c'est dans le centre de compilation. Il faut que la société civile, les églises catholiques,
les observateurs,
prennent d'assaut les centres de compilation. Là où on fait les calculs. Voyez-vous, il y a des observateurs, qu'on compte les voix, qu'on proclame les choses. C'est si nous faisons cela, et qu'il y ait des gens honorables, dignes, respectables. Parce que ce qui s'est passé, on a vécu, c'est qui? Bien, les gens, les politiciens ici, ils envoyaient leurs beaux-frères, leurs petits-frères, leurs relations dans les centres de compilation.
Ça semble-t-il qu'à l'époque, c'était même l'ANR qui envoyait des agents. L'ANR qui allait pour...
Mais il faut arrêter ça, une fois pour toutes.
On va terminer...
Pour le problème de la moralité.
Parce qu'en amont, c'est vrai, les centres de compilation, mais en amont, il faut aussi moraliser la campagne.
Il faut moraliser la vie publique dans notre pays. Il faut moraliser les campagnes électorales. Il ne faut pas... Il faut interdire la distribution des cadeaux, de l'argent, des biens matériels pendant la campagne électorale. Ça, c'est l'achat des consciences des électeurs. Il ne faut pas aller acheter les électeurs avec de l'argent. Si vous aimez les habitants de votre circonscription électorale, c'est maintenant qu'il
c'est
faut
maintenant
aller.
C'est maintenant qu'il faut les faire.
C'est maintenant. Allez acheter les sacs de riz, des manioc,
aller enterrer les morts,
etc.
Apporter les câbles, les câbles électriques.
Il n'y a pas de problème. Dès que la campagne électorale commence, pendant la campagne, pas de distribution d'argent.
Alors, vous voulez qu'on mette ça dans la loi?
Il faut mettre ça dans la loi.
La moralisation de la campagne.
Sous peine des sanctions. Quelqu'un a demandé des sanctions. On vous trouve pendant la campagne électorale en train de distribuer de l'argent pour acheter les votes des acteurs.
c'est immoral, eh bien, on vous met dehors, on invalide votre candidature. Donc, il faut cela. D'ailleurs, quand on distribue l'argent pendant la campagne électorale, j'ai Lunkembo, c'est la bagarre, c'est les batailles.
Il y a on donne 1000 francs à cause des 1000 francs, de 2000. Les gens se blessent.
Les gens tombent par terre, ils s'arrachent l'argent. Il y a des femmes qui sont dans des scènes terribles et elles viennent aux campagnes, on distribue l'argent, ils veulent aussi avoir
mais de l'argent. Mais les matériels, les supports électoraux, notamment les polos.
Les polos, ce ne sont pas des cadeaux. Ça, c'est la publicité. Les affiches, les casquettes, les polos, ça, ce sont des objets de publicité et de propagande. Ce ne sont pas des cadeaux. Mais l'argent. Et la nourriture, et l'épargne. Allez distribuer l'épargne maintenant. Maintenant. Distribuer l'épargne maintenant. Pas pendant la campagne. Donc il faut moraliser la vie publique. Il faut aider nos populations. J'ai vu une femme ici à Kinshasa qui a été séquestrée. Elle fait la campagne. Elle termine. Les jeunes gens qui étaient là lui demandent l'argent. Mais elle n'a pas l'argent à distribuer.
On
dit, mais nous vous avons applaudi. On a eu du mal aux mains, des douleurs aux mains en vous applaudissant. Et sous toute cette douleur que nous avons eue aux mains, ça reste comme ça. Il faut nous donner un peu d'argent. On a souffert en vous applaudissant.
Voilà.
Et la femme a été séquestrée dans une paroisse et le prêtre l'a fait sortir par une porte de la nuit.
Voilà,
et
professeur,
donc, il faut moraliser la campagne électorale, interdire la distribution des cadeaux et des biens matériels.
Et renforcer les centres des compilations en mettant vraiment pour éviter la fraude.
Là, on va innover. Le reste,
Merci beaucoup, professeur. C'est par cette phrase que nous mettons un terme à cette émission. Parole aux auditeurs. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Jean-Marc Matouaki et Alain Ngoy. On se retrouve demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs.